Bonsoir. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour le fait que nous puissions sonder les Écritures afin de comprendre tout le sens de ton alliance. Merci Seigneur Jésus d'éclairer notre pensée et de permettre que nous puissions avoir ton intelligence, ta pensée, afin de nous comporter tout à ta gloire. Merci de te servir de ce message pour nous aider. Merci Jésus. Amen. Je voudrais revenir un petit peu sur ce grand plan qui a été décidé dans le Conseil de Dieu et qui est mis maintenant en route lorsque Adam et Ève arrivent sur cette terre. Nous savons que comment Ève a été séduite par le serpent ancien. Vous vous rappelez que cet être se tenait debout, qu'il parlait comme un homme. Paul savait que cette séduction qui a eu lieu là, elle peut atteindre encore les enfants de Dieu qui sont ici sur cette terre au niveau de leur intelligence. 2 Corinthiens 11:3. Et c'est pourquoi il nous faut avoir une vie de prière, il nous faut avoir une vie intérieure saine, et afin que à l'extérieur, dans notre comportement, nous nous positionnons pour glorifier notre Dieu. C'est nécessaire d'avoir une vie spirituelle saine, une vie intérieure renouvelée par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans un monde démoniaque, nous devons être veillants et prions, c'est pas un amusement. Et ceux qui ne le font pas, ben ma foi, ils se trouvent fort dépourvus quand l'hiver fut venu. Hein, c'est toujours l'histoire, n'est-ce pas, hein. Il faut faire attention. Adam et Ève, quand ils sont tombés dans le péché, dans la désobéissance, ils ont subi une importante transformation. Ils sont devenus des animaux. La Bible nous dit par ailleurs que l'être animal ne peut rien comprendre au sujet des choses de Dieu, du plan de Dieu. Alors nous devons faire attention, parce que nous sommes, il y a quelque chose de l'animal en nous. Je vous explique pourquoi. Parce que nous sommes devenus mortels, comme des animaux, et même si nous sommes nés de nouveau, nous avons encore ce corps mortel. Et nous sommes comme Adam et Ève au départ, quand ils ont péché, on mange des choses, des nourritures qui ne conviennent pas à notre nature. Nous sommes devenus malades physiquement, et sujet à toutes les faiblesses corporelles, l'humanité a hérité de cela. Les corps des êtres humains sont devenus sujets à la dissolution finale, c'est-à-dire à la mort. Et nous-mêmes, alors que nous sommes nés de nouveau, notre corps est encore dans cet état-là. Comme nous le dit Colossiens, nous attendons, nous soupirons après le rachat de notre corps. Celui qui a séduit Ève s'était fixé le but de détruire les corps des esprits qui avaient été fidèles avant la création du monde. Et il est venu et il a souillé la semence, n'est-ce pas, de Dieu. Dieu était le Père et il a souillé cette semence, la plus belle création de Dieu. Et puis il y a eu la lignée de Cain, Genèse 4, 17, et puis la lignée d'Adam, Genèse 5. Si vous regardez la lignée de Jésus, il n'y a pas qu'un dedans, parce que c'est une autre lignée, c'est une lignée étrangère, une lignée de bête. C'est la lignée directe de la bête. La lignée de l'ivraie, la lignée du bon grain. Matthieu 13, 37, 39 nous le dit, et on a beau faire les effarouchés en disant « Oh, mais alors, ben oui, c'est comme ça, il y a 2 lignées sur cette terre. » Jésus le dit, il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Quand un enfant de Dieu se manifeste comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il se convertit et il commence à suivre le Seigneur Jésus-Christ, avant sa conversion, il était déjà fils de Dieu, mais il était perdu. Par contre, il y a des fils du diable, eux ne se convertissent jamais, ils peuvent être très religieux, mais ils ne se convertissent pas, ils ne changent pas. N'est-ce pas de nouveau ? Et puis, par la désobéissance, au nom de l'amour, les 2 lignées ont commencé à s'unir, il y a eu des mariages, n'est-ce pas, entre eux, et puis pour terminer, clôturer toute cette affaire épouvantable, il y a eu des anges déchus qui ont eu des relations avec des femmes, on trouve ça dans Genèse chapitre 6. En fait, bon, la race humaine est complètement mélangée au plus haut niveau que ce puisse être. Et la mort est devenue l'héritage universel, que vous soyez un enfant de Dieu prédestiné au salut ou pas, vous mourrez. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Je vous enseignais ces choses des deux dernières prédications. Et la mort peut venir chercher un enfant, un ado, une personne mûre, une personne très âgée. Elle peut se manifester à la suite d'accidents, de maladies, par la violence, ou suite à ce qu'on appelle des causes naturelles, hein, l'usure, etc. Mais elle doit venir. Elle doit venir. Et Satan le sait très bien, et nous aussi on le sait très bien. Et cette connaissance, là, c'est tout son triomphe actuel. Mais ça ne durera pas, parce que Dieu a un objectif. Un objectif qui est supérieur aux desseins des plus profonds, des profondeurs de Satan, des démons et des hommes. L'expiation par Jésus-Christ. Elle a été prévue pour vaincre la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Parce que c'est le premier qui est rentré. Et pour fournir un moyen de payer la rançon qui nous libère du pouvoir de Satan, du pouvoir de la mort, du péché, de la maladie, tout ça, eh bien Jésus a payé le prix. Le châtiment de la chute s'est abattu sur tous les gens, sur tout le genre humain, et cela à la suite de l'acte d'une seule personne. Alors écoutez-moi bien, les frères et sœurs. Il serait parfaitement injuste que Dieu se fasse subir les résultats à tous les hommes sans prévoir leur délivrance. Pourquoi est-ce que je payerais pour la faute d'Adam ? La faute d'Adam a mis l'humanité dans une certaine position. Le péché est entré dans le monde par une seule personne. La mort est devenue le lot de tous. Et la révélation que Dieu donne, et qui est conforme à la raison, c'est que l'expiation nécessaire doit être accomplie par une seule personne aussi, puisque le mal est entré par une seule personne, ça doit sortir par une seule personne. Alors oui, la chute est venue par Ève, puis par Adam, mais nous ne sommes pas responsables de leur désobéissance. Je suis désolé. Je dis que l'humanité est absoute de toute responsabilité pour ce péché-là. Mais je dis aussi que chacun rendra compte de ses transgressions personnelles uniquement. Alors suivez-moi bien. La chute était nécessaire pour que Dieu se manifeste comme sauveur. Je vous le rabâche depuis des mois, voire des années. Alors, le salut général, dans le sens du rachat des efforts, des effets de la chute, il est apporté à tous. Le salut général, je répète, dans le sens du rachat des effets de la chute, il est apporté, il est à disposition pour tous. Dieu a tant aimé le monde. Mais chacun doit rechercher lui-même le salut individuel, ou si vous préférez, la libération des effets du péché personnel, doit être recherché par chacun individuellement par la foi et aussi par l'accomplissement de bonnes œuvres. Parce qu'il nous est dit que nous devons travailler à notre salut, ce salut qui nous a été acquis avec crainte et tremblement. Donc, travailler, c'est-à-dire nous comporter dignement, porter des fruits dignes de la repentance. Alors Jésus nous a réellement rachetés, il a racheté tout le monde, mais seuls ceux qui le croient et le suivent retourneront dans la présence du Père. Alors on voit ça dans Romains chapitre 5, 12, hein, ce que je viens de vous dire là, c'est là, il est dit, Paul dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà, c'est comme ça. Tous ont péché. Ben oui, mais on n'a pas péché, on n'a pas fait le péché d'Adam, mais on a tous péché parce que la mort est entrée, c'est-à-dire la séparation avec la vie, alors nous sommes livrés à nous-mêmes et on fait que des erreurs, on fait que des péchés, des transgressions. Pourquoi tous ont péché depuis Adam? Parce que après le péché d'une seule personne, le jugement a entraîné la condamnation, c'est-à-dire l'exclusion de cette présence sainte de Dieu, de la vie. Lisons Romains 5, 18. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. À tous. Hein, on est loin de la petite doctrine évangélique. je relis. Par un seul acte d'acquittement, la justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors évidemment, dans ce chapitre 5, il y a quatre fois le mot beaucoup. Verset 15, beaucoup sont morts par la faute d'un seul. Ah bon? Ils sont pas tous morts alors? Pourtant c'est écrit que ils sont tous morts, la mort a atteint tous les hommes, tous ont péché, etc., etc. Au verset 12, alors est-ce que c'est tous ou c'est beaucoup? C'est différent, tous ou beaucoup, hein? Qui sont ces beaucoup? Eh bien, comme il est dit au verset 15, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus abondamment, voilà, elle est déversée sur beaucoup, sur ceux qui, la mort a touché qui? C'est beaucoup dont l'apôtre Paul parle là. Ce sont les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne s'étaient pas révoltés avant la création du monde, qui sont venus sur cette terre, ils étaient à Dieu, nous étions à Dieu. Et la mort est venue sur nous aussi. Les autres, bon, ils étaient déjà morts. Les esprits qui s'étaient rebellés contre Dieu avant la création du monde, ils étaient déjà morts, c'est-à-dire séparés de la vie. Mais la mort, pour beaucoup sont morts par la faute d'un seul. C'est beaucoup, c'est les enfants de Dieu. Ils sont morts, ce groupe-là est mort, ce sont ces beaucoup dont il parle là. Ce sont les fils de Dieu, le bon grain, morts, séparés de Dieu. Les autres étaient déjà morts, séparés de Dieu, avant de venir s'incarner. Donc, toujours au verset 15, la grâce a été déversée sur beaucoup, pas sur tous, sur beaucoup. Alors, est-ce que la Bible se contredit, puisque c'est dit que un peu plus loin, au verset 18, que un seul acte d'acquittement donne la justification et s'étend à tous. Alors, c'est à tous ou c'est à beaucoup, vous voyez? Si on ne fait pas attention à ce qui est dit dans la Bible, et si on ne comprend pas la sainte doctrine, et qu'on croit que ceux qui sont sauvés, c'est simplement ceux qui lèvent leurs mains dans une réunion, qui sont trempés dans l'eau, et puis voilà, parce qu'ils ont choisi, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont accepté, on nous dit, mais on n'accepte rien du tout, on est prédestiné au salut, quand on entend la voix de Dieu, on la reconnaît pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous appelle, il appelle qui? Il appelle les siens, il appelle ses brebis reconnaissent sa voix, le suivent, c'est dans leur nature. Donc c'est beaucoup là, la grâce a été délivrée sur beaucoup, c'est sur ceux qui étaient prédestinés au salut et qui ont été perdus momentanément sur la terre. Elle était donnée aux élus. On retrouve la même pensée au verset 19 où il est dit « En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » C'est les siens, là. C'est pas tout le monde. La justification s'étend à tous, mais seuls les élus en bénéficient réellement. Parce que les autres, ils continuent à pécher, sans jamais se repentir, et vous voyez, la différence. Donc, l'expiation devait être un sacrifice en tant que substitut volontaire et inspiré par l'amour. Cette expiation, elle était faite. Et son application elle est offerte dans la mesure où elle est acceptée comme le seul moyen de délivrance placé à notre portée. Seul Dieu pouvait accomplir une telle mission. Et il n'y a que ses enfants, ceux qui reconnaissent sa voix, qui trouvent à leur portée, qui comprennent, leur esprit est en communion avec l'esprit, et ils peuvent comprendre que c'est à leur portée, c'est pour eux. Et il est venu dans la condition mortelle, Dieu est venu dans la condition mortelle, Jésus c'est le Père, hein, Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu. Et il a d'abord visité cette bergerie, celle des vivants, et il est désormais le Seigneur des vivants qui sont les siens. Et puis, il est allé visiter la deuxième bergerie, celle des morts, et il est désormais le Seigneur des morts, qui sont les siens. Alors, quand on est Seigneur, quand on est Maître, on est obéi. Les morts ont-ils un Seigneur? Les morts ont-ils un Maître? Oui. Car Christ est mort, et il est ressuscité, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. C'est pas moi qui l'invente, c'est Romains 14, 9. Jésus est le Seigneur des morts aussi bien que le Seigneur des vivants. S'il est le Seigneur des vivants ici sur la terre, il est aussi le Seigneur des morts en bas sous la terre. C'est comme ça. Il est Seigneur aussi bien des vivants que des morts qui sont à lui. Et c'est pour cela que l'Évangile est aussi prêché aux morts selon 1 Pierre 4:6. À tous ceux, il est prêché à tous ceux qui n'ont pas entendu sa voix alors qu'ils vivaient dans la bergerie des vivants, tous ces morts qui sont là-bas. Avant, ils étaient dans la bergerie des vivants et puis ils sont morts. Mais ils n'ont pas, quand ils étaient sur la terre des vivants, ils n'ont pas entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Pourtant, ils étaient les siens. Ils étaient à Dieu. Mais ils n'ont pas entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Ben, ils l'entendent dans le séjour des morts. Jésus, dans son amour, a visité la bergerie des morts. Il a dit, il y a encore une autre bergerie, il faut que j'y aille. Jean chapitre 10, verset 16. Grâce au sacrifice accompli par Jésus-Christ, le chemin de la réconciliation est maintenant ouvert. Réconciliation qui nous permet de venir de nouveau en communion avec Dieu et ensuite qui nous rend aptes à demeurer de nouveau éternellement dans la présence de notre Père Céleste, que nous soyons vivants ou que nous soyons morts. L'Évangile est aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir... On va le lire parce que ces choses-là ne sont pas bien comprises. 1 Pierre 4:6, et il faut que vous ayez le verset tel qu'il est, 1 Pierre 4:6. Donc Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient là, morts. Et il est dit là, au verset 6, en effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts. Aussi, ça veut dire qu'il était annoncé aux vivants. Et donc maintenant, il est aussi annoncé aux morts. Afin qu'après avoir été jugé comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon l'esprit. Ils vivent selon Dieu par l'esprit. Ça veut dire que les morts vivent par l'esprit. Pas tous les morts. Les siens, ceux qui sont à Dieu. Ils ont été jugés comme tous les hommes ici-bas. Ils ont été placés dans le mauvais côté du séjour des morts parce qu'ils n'avaient pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ici-bas, dans la bergerie des vivants. Mais l'Évangile leur est aussi prêché, afin que, après avoir été jugés et placés de ce mauvais côté du séjour des morts, ils puissent vivre selon Dieu par l'Esprit. Les morts vivent. Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Et ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Ils ont conscience que bientôt, ils vont ressusciter avec un corps, avec leur corps. Ils sont dans la paix avec tous les chrétiens qui ont quitté cette terre, avec ma mère, avec tous ceux qui ont quitté, avec Osborne, avec Raphaël, avec Violette, avec tous ces gens qui ont quitté la terre en étant en ordre. Ben maintenant, ceux qui ont entendu l'Évangile de Jésus-Christ dans le séjour des morts, ils vivent aussi bien qu'eux. Parce que Jésus les a fait sortir de là, il a emmené les captifs dans les hauteurs, Éphésiens. Éphésiens. Déjà, maintenant, comme nous recevons le salut par la foi, nous recevons aussi, par la foi, tout ce qui contribue à la vie. Comme eux, ils ont reçu ce que nous venons de lire, pour pouvoir vivre selon Dieu quant à l'Esprit. Jésus est mort et il a précédé ainsi ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 21, 24. Dieu ne perdra aucun des siens. Tous les bons esprits qui vivaient près de Dieu avant la fondation du monde seront sauvés. Car ceux de la bergerie des vivants qui entendent sa voix le suivent. Et ceux de la bergerie des morts qui entendent sa voix le suivent aussi. En ce qui compte ici-bas, laissons de côté les morts, nous sommes sur la terre des vivants. Ce qui compte ici-bas, c'est de le suivre, lui, de suivre le Seigneur. Et souvenez-vous toujours que nous sommes sur une terre infestée de démons, et de plus en plus infestée de démons. Les difficultés, mes frères et sœurs, sont des bénédictions. Ça aussi, je vous le chante sur tous les tons depuis des années. Alors croyez-le. Dieu le dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix et mes pensées sont élevées au-dessus de vos voix et de vos pensées. » Ésaïe 55, 8, 9, ça date pas d'hier cette prophétie. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Tu as des pensées, elles sont pas correctes. Ajuste tes pensées sur les pensées de Dieu et reconnais-le dans toutes tes voies. Ça va pas, ça va mal, reconnais que c'est Dieu qui te conduit dans ce chemin-là. Pour nous suivre, il faut élever nos pensées. Il faut le reconnaître dans toutes nos voies. Si nous respectons cela, c'est-à-dire si nous croyons ce qu'il dit là, alors cela nous conduit au plus haut degré du royaume céleste, à un accroissement éternel. Peut-être vous n'aurez jamais une récompense ici-bas sur terre pour tous les efforts et tous vos comportements saints, mais un poids de gloire vous attend. Après. Peut-être déjà maintenant. Mais en tout cas, après, c'est certain, c'est sûr. Alors voilà pourquoi notre comportement doit refléter nos croyances dans les principes divins, en ordre selon la volonté établie, préétablie de Dieu. Et nos comportements doivent aussi refléter nos engagements envers l'Évangile, c'est-à-dire envers la bonne nouvelle que nous sommes sauvés, nous avons quelqu'un qui a payé le prix pour nous, c'est Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie pratiquement? Ça signifie que la manière dont nous réagissons à toute situation doit améliorer les choses et non les envenimer. Je parlais dernièrement, hier, avec une de mes amies de Suisse, à qui j'ai donné le CD, le secret, avec la loi d'attraction. Elle me disait, mais c'est formidable quand on met en pratique ces principes, mais alors après ça devient une habitude. Et on commence à être positif, et on sait s'arrêter quand on commence à avoir le cerveau qui tourne trop vite et puis d'une façon négative. Voilà ce qu'elle me disait. Elle, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, dommage que tu ne me l'aies pas donné plus tôt. Eh oui. Mais vous qui écoutez là, ça fait longtemps que vous connaissez ça. Alors, pourquoi est-ce que vous laissez les mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, des choses négatives envahir votre cœur? Pourquoi, sachant que Dieu a un plan merveilleux, vous vous laissez glisser dans des trucs négatifs, de désespérance et de découragement? Pourquoi? Vous vous laissez séduire, comme le dit l'apôtre Paul, de la même manière que Ève a été séduite, et c'est votre intelligence qui est touchée. Vous êtes touché, vous êtes corrompu dans votre intelligence à cause de ça, parce que vous vous laissez séduire par des mauvaises pensées. Ne laissez pas votre amour au vestiaire. Ne laissez pas votre foi au vestiaire. Ne laissez pas votre espérance au vestiaire. Le plan de Dieu, il est parfait. Parce que lui, il est parfait. Et nous sommes dans ce plan parfait en tant que imparfait, mais dans un processus, celui du perfectionnement. Alors veillons avec le plus grand soin à notre vie intérieure. Soyons toujours bien assurés d'être remplis du Saint-Esprit et travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous montre que ces choses sont vraies et que vous mettiez à les pratiquer avec sérieux. Non pas quand tout va bien, mais justement quand tout va mal. Élevez vos pensées au niveau de la pensée de Dieu. Ne traînez pas au ras des pâquerettes. Ne vous laissez pas impressionner par l'ennemi qui veut vous séduire comme il a séduit Ève. Hey, ça va ruiner votre intelligence. Vous allez devenir des bêtes. Bêtes. Élevez tout cela. Mettez-vous devant le Seigneur et élevez vos pensées. Marchez sur la bonne voie, marchez sur le chemin selon les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, c'est là ma prière. C'est que chacun et chacune fasse ce que je viens de dire et s'élève ainsi. Sortant de cette ambiance nauséabonde et collante et malheureuse de ce système corrompu qui est dans ce monde. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, qu'il puisse s'élever au-dessus de tout cela et voir la lumière. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun et de chacune. Amen.